Mais d'abord, on va aller rejoindre Martin McGuire. Bonjour, Martin.
Bonjour, Bernard.
Luc, tu es là.
Oui, Bernard.
Bonjour, Luc.
Martin, d'abord, faisons le point sur l'état de santé de Carey Price.
Pour l'instant, il n'y a pas trop de nouveaux depuis Edmonton parce qu'on a 2 heures de décalage. Là, l'entraîneur devrait parler après l'entraînement du Canadien qui est prévu pour 14 heures, heure de Montréal. On aura probablement une partie de la réponse à l'entraînement si Price y est ou il n'y est pas. Pour l'instant, il n'y a pas de plan de le ramener à Montréal. Il n'y a pas de diagnostic officiel. On ne sait pas si c'est un bas du corps ou un haut du corps et on sait encore moins si c'est une commotion. Tout ce que le Canadien a tweeté hier, lorsque Price a quitté après la première période, c'est qu'il était blessé. Et la phrase s'est arrêtée là, qu'il ne pouvait compléter le match. C'est arrivé pour ceux qui ont peut-être pas suivi le match, là, parce que c'était plus tard hier, là, pour les couche-tôt qui travaillent tôt le matin. Là, c'est arrivé alors que Alex Chiasson convergeait au filet du Canadien pour gêner un peu le travail de Price et se placer devant lui, alors que McDavid a pris un lancer. Le but, la rondelle est entrée derrière Price, mais tout de suite, l'entraîneur a interjeté appel qui a été donné aux Canadiens, donc le but n'a pas compté. C'est une collision nette entre Chiasson et Price. On a vu Chiasson là, vraiment aller dans ce qu'on appelle le bleu, le demi-cercle bleu, aller frapper Carey Price. La tête, le haut du corps de Price semble avoir pris le coup, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus.
OK, mais ça pourrait être, d'après ce que tu as observé, même si ce n'est pas confirmé, il se pourrait bien que ce soit une commotion cérébrale, Martin.
C'est très difficile d'y aller d'une conclusion comme ça, Bernard, parce que il peut avoir mal au cou, puis ça donne des maux de tête, puis c'est pas nécessairement une commotion cérébrale. Il peut être un peu mal tombé, il peut s'être fait mal au bas du corps en tombant. On pensait au départ que c'était le lancer de Draisaitl à la fin de la première qui avait reçu un peu dans le cou. Au départ, on pensait tous que c'était ça, mais ce n'était pas ça. Alors, c'est difficile, Bernard, de dire... Okay. Ben oui, ça a l'air d'une commotion. Dans les circonstances, là, je pense que je vais me garder une réserve puis je vais attendre.
Okay, mais là, Martin, avec l'absence de Price, avec l'absence de Gallagher, il me semble qu'on se retrouve, c'était il y a quelques années quand on a perdu Price pendant quasiment toute l'année, chez Weber qui n'avait pas été là. C'est le château s'effondre, là.
On se retrouve, Luc, exactement où on était il y a environ une semaine et demie, c'est-à-dire sans les deux joueurs les plus importants du Canadien. Mais par contre, les gars, hier, le pointage n'indique pas nécessairement l'allure de la rencontre.
Non.
Le Canadien a joué du hockey assez solide. Ils se sont battus pendant à peu près 50 minutes. Puis dans les 10 minutes qui ont resté, là, moi, je pense qu'il y a une partie de manque de confiance. Cette équipe-là n'arrive pas à marquer. Elle manque un peu de confiance. Tout à coup, elle se met à jouer un petit peu sur les talons. Ils pensent qu'ils vont être capables de défendre. Comme ils ne génèrent pas beaucoup, ils se mettent à défendre. Et là, la pire affaire que tu peux faire contre le meilleur joueur de hockey au monde, hier, qui a joué comme le meilleur au monde, ben c'est ce qui est arrivé. Tu donnes des opportunités à McDavid.
Écoute, laisses prendre la vitesse.
Puis
quand il a déjoué les Petrie, wow. C'était qui l'autre? C'était Chiarot, ça?
C'est Edmondson. Edmondson qui était avec lui.
Écoute, c'est une pièce d'anthologie. Là. Il accélère à une vitesse, c'est incroyable.
Et en plus, savez-vous quoi? Savez ce qu'on dit de McDavid? On dit que s'il veut prendre la ceinture de Crosby un jour, ça va y prendre un peu de tabarouette dans le nez, là. Ben, hier, il y en avait. Hier, non seulement c'est un joueur formidable au niveau de la rapidité puis sa façon d'exécuter, mais il a commencé le match puis il a dit à Dano, tu veux venir dans mes culottes? Moi, je vais te brasser. Là, les deux ont commencé à chamailler sur un changement près du banc. Ils étaient prêts à jouer les Oilers et Connor McDavid était plus que prêt. Il a joué 27 minutes hier. 27 minutes pour un attaquant. Puis lui, il ne se ménage pas. Là. C'est comme on dit, c'est en haut, en bas, aller-retour deux fois.
Prochain match demain, c'est bien ça?
Demain, effectivement, encore une fois, le monstre à deux têtes. Et là, évidemment, on va savoir ce qui arrive avec Carey Price. Mais je vous le dis, messieurs, 4-1, c'est pas un indicateur. Moi, je pense qu'on a de quoi d'intéressant avec Toffoli, Armia et Suzuki. Suzuki a joué un bon match hier. On a aussi quelque chose d'intéressant avec Dano, Tatar et Anderson. J'ai trouvé que la combinaison était bonne.
Bon.
Après ça, c'est sûr que si tu fais des erreurs contre le meilleur joueur au monde, là, ça va pas bien.
Non.
Non, ça, c'est sûr. OK, bon, on va espérer... écoute, on n'arrête pas de se dire ça toutes les fois qu'on conclut nos entrevues. On va espérer une victoire demain, mon cher Martin, puis on va espérer que pour Price, c'est pas trop grave. Hein?
Absolument. Puis en tout cas, il y avait des ingrédients, messieurs. Tu sais, Eric Staal parle au coach, il marque le premier but. C'était pas tout perdu hier.
D'accord, d'accord, Martin. Merci de terminer sur cette note d'espoir. À la prochaine. À demain, enfin. On se reparle demain. On se reparle demain.
Bon, note de réalisme. Note de réalisme.
Ben là, Luc, quand on dit que dans la défaite d'hier, il y avait une germe peut-être de d'espoir et d'optimisme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je cesse d'être fâché, Bernard.
Ah, tu cesses d'être fâché.
Je regarde ça aller, puis on a vu ce film-là avant.
Oui. Ben là, Luc, tu restes avec moi, parce que là, moi, je vais me tourner vers un préparateur mental. OK, un préparateur mental qui a préparé notamment le champion du monde en ski acrobatique, dis-je, Michael Kingsbury. Il a travaillé avec un autre champion, Maxence Parot, champion en snowboard. Il a travaillé aussi avec d'autres, par exemple Scott Moir en danse sur glace. Il s'appelle Jean-François Ménard. Il est spécialiste en préparation mentale, auteur du best-seller L'Olympien au préparateur mental de sportif. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bernard, bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Dites-nous en fait, Jean-François, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète qui enchaîne les défaites, que ce soit seul ou en équipe?
Ce qui est très typique là, lorsqu'on vit une séquence, comme que le Canadien est en train de vivre en ce moment, c'est que on a une mémoire très à court terme. C'est qu'on pense beaucoup juste à nos derniers matchs qu'on a joués, puis on oublie justement des bonnes séquences qu'on a faites pendant la saison. Fait que moi, ce que je fais souvent avec ces athlètes-là, c'est que je vais leur montrer des performances sur vidéo de ce qu'ils ont bien fait pendant la saison pour qu'ils se rappellent que, ah oui, c'est vrai, je suis capable de bien jouer de telle façon, puis ah oui, c'est vrai, j'ai bien fait ça. Puis que lorsqu'on regarde la situation actuelle, on le regarde avec un autre paire de lunettes. Parce que vous savez, c'est tellement facile d'être négatif quand ça va mal.
Mais on prend le cas de Jonathan Drouin. Un talent fou, rapidité, des mains extraordinaires, il y a tout ce qu'il faut. Puis à l'heure actuelle, monsieur, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars comme ça?
Ben écoute, Luc, c'est difficile à dire parce que je le connais pas personnellement, là. Puis moi, je vais juste donner mon avis d'un point de vue externe. Mais tu sais, Jonathan, c'est vrai qu'il est talentueux, puis c'est vrai qu'il y a des flashs des fois qu'on se dit « Wow, ce serait donc le fun qu'il joue comme ça plus souvent ». Pour moi, ça revient à la préparation. Puis je le connais pas personnellement, je sais pas comment il se prépare, mais de s'assurer, tu sais, d'arriver dans un match avec des objectifs très spécifiques, puis de s'assurer de revenir à ces objectifs-là pour que tu aies une constance de présence en présence. Parce que ce que je trouve avec Jonathan, c'est que il y a des super beaux flashs dans un match, mais les flashs arrivent pas souvent. Puis s'il y avait une façon peut-être de porter attention sur peut-être plus des petites victoires, des petites choses qui fait, tu sais, quand même bien de présence en présence, mais il peut grandir de ça, il peut bâtir là-dessus, puis être peut-être un peu plus constant pendant le match. Fait que moi, ce serait une suggestion que je donnerais, puis c'est sûr qu'on pourrait, Jonathan pourrait l'utiliser un petit peu plus là pour nous sortir de cette étape.
Mais oui, vas-y, Luc.
Je vais vous parler juste d'une anecdote personnelle. J'ai vu Jonathan Drouin le soir où l'équipe fêtait la fin de la saison, il y a deux ans ou trois ans. Et j'avais parlé avec lui un peu, puis il m'avait dit « Mon problème à Montréal, c'est que le public me déteste. » Est-ce que ça dit quelque chose sur quelqu'un, ça? Parce que d'abord, je pensais que c'était pas vrai, là, mais c'est ça qu'il disait spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mentalité comme ça ou quoi?
Ben pour moi, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il peut pas faire l'erreur. T'sais, il n'a pas le droit à mal jouer, puis ça apporte une pression gigantesque. Et surtout à titre de Québécois, quand on joue pour le Canadien, c'est sûr que c'est présent. Tu sais, c'est pas un secret. Puis même, tu sais, Philippe Danault, il en a parlé un petit peu aussi avec, tu sais, les séquences où il y a un peu plus de difficultés. Mais tu sais, on peut s'en sortir là. Puis faut aussi voir le côté positif de la chose. C'est aussi un honneur comme Québécois de jouer pour le Canadien.
Ben oui.
Puis je pense qu'il y a une façon, tu sais, surtout, tu sais, c'est pas physiologique, c'est pas technique. Ces difficultés-là, c'est vraiment psychologique, puis c'est la façon qu'on décide de voir la situation.
Mais Jean-François Ménard, est-ce qu'on peut, dans une situation comme celle-là, là, mettons là, on jase, OK? Mettons là, Dominique Ducharme vous appelle, ou Bergevin vous appelle. Bon. Est-ce que vous recommanderiez de prendre un certain nombre de joueurs clés puis de les rencontrer individuellement, ou est-ce que c'est une discussion d'équipe qu'il faut avoir?
Ben, je pense que c'est les deux. Parce que, tu sais, faut pas oublier que quand on parle de sport d'équipe comme le hockey, c'est des personnes individuelles qui font partie d'une équipe.
Oui.
Puis chacun des joueurs ont un rôle spécifique à jouer. Chacun des joueurs ont leur propre personnalité. Puis on peut pas les traiter toutes pareilles. Ça marche pas comme ça. Puis tu sais, on le voit avec le Canadien en ce moment. Tu sais, je vais donner juste un exemple par rapport à c'est ceux qui vont quand même assez bien, puis ceux qui n'arrachent un petit peu plus, puis si on prend juste l'âge de ces joueurs-là. C'est très particulier cette année, les gars, parce que c'est beaucoup de matchs en très peu de temps, qui est complètement inhabituel pour les athlètes. Puis si on regarde de plus en plus, pas juste le Canadien, on le voit aussi à travers la Ligue nationale, les athlètes qui sont plus âgés, qui ne récupèrent pas pareil, ont plus de difficultés en ce moment, puis on commence à le voir. Dans les 25-30 premiers matchs, c'était pas pire. Mais là, depuis les 10-15 derniers matchs, puis pour le restant de la saison, c'est pas évident. Puis on le voit chez le Canadien, par exemple, on le voit avec Weber, on le voit avec Petrie, qui a commencé de façon extraordinaire, puis là, wow, c'est un petit peu plus difficile dernièrement.
Corey Perry,
Eric Staal, quoi qu'il a marqué hier soir, mais que depuis qu'il est avec le Canadien, c'est pas facile.
L'absence de Gallagher, Jean-François Ménard, moi honnêtement, là, je regarde la composition de cette équipe-là, puis je me dis, comment ça se fait qu'un gars comme Weber, comment ça se fait qu'il n'arrive pas par son leadership à ramener cette équipe-là dans une attitude de gagnant? Il y a quelques joueurs qui sont en habit, là, qui sont en uniforme, là, qui jouent présentement et qui visiblement n'y arrivent pas. Et on se rend compte que Gallagher, depuis qu'il est parti, là, il manque un gros morceau. Là. Quand on dit que c'est le cœur de l'équipe, là, ça devient un peu cliché de le dire, mais honnêtement, depuis qu'il est blessé, l'équipe n'est plus la même. Ça se peut-tu qu'un joueur puisse, à ce point, être important dans une dynamique d'équipe et qu'il n'y ait pas personne pour prendre le relais quand il n'est plus là, sacrifice?
La réponse est oui. Il y a certains joueurs qui apportent, Bernard, quelque chose de tellement unique que faut pas essayer de le remplacer. Peut-être un paquet de joueurs peut compenser un peu plus son absence. Mais moi, je dis toujours que on se rend compte seulement à quel point qu'on aime quelqu'un, on apprécie quelqu'un lorsqu'on l'a plus, lorsqu'il est plus là. Quand Gallagher est là, c'est pas là qu'on s'en rend compte à quel point il est utile. C'est lorsqu'il n'est pas là qu'on s'en rend compte à quel point il est utile. Puis, tu sais, des athlètes, c'est des êtres humains, puis des êtres humains, c'est des êtres sociaux. Puis, on carbure sur l'énergie autour de nous. Puis, quand tu joues avec Gallagher, que tu sois sur sa ligne ou que tu sois tout simplement sur son équipe, tu n'as pas le choix de te donner un peu plus. Tu n'as pas le choix parce que lui, il est toujours présent, puis il est toujours en train de se mettre le nez dans des endroits difficiles où est-ce que ça va faire mal. Puis, c'est contagieux. Puis, lorsqu'il manque, aspect-là dans l'équipe. Désolé l'expression anglophone, mais on appelle ça un spark plug. Ça démarre le moteur. C'est vraiment ça qui pousse l'équipe.
La bougie d'allumage.
La bougie d'allumage. Fait que c'est malheureux qu'on se fie autant sur un joueur comme ça, mais en même temps, ça fait juste démontrer à quel point qu'il est spécial, ce gars-là, puis on l'a besoin.
On va dire, on souhaiterait qu'il y ait des joueurs qui se lèvent là, puis qui prennent sa place, mais visiblement, ça n'arrive pas. Jean-François Ménard, je rappelle que vous avez écrit « L'Olympien au bureau ». Tout à l'heure, je n'ai pas donné le titre correctement, je m'en excuse. « L'Olympien au bureau », la préparation mentale des grands athlètes transposés au monde du travail. Jean-François Ménard, merci beaucoup.
Merci.
Merci, messieurs. Bonne journée.
Et Luc, on se reparle un peu plus tard, hein, mon cher.
À tantôt.
Alors, on va à la pause. Au retour, j'ai commencé à recevoir vos réponses. Hein. Je vous ai demandé si vous avez 45 ans et plus, est-ce que ça vous intéresse d'aller vous faire vacciner selon les informations que j'ai pu confirmer? François Legault va annoncer à 13h que vous allez pouvoir, dès demain, prendre un rendez-vous, si vous avez 45 ans et plus, pour aller vous faire vacciner avec le AstraZeneca. Vous êtes partant? Oui, c'est un. Vous n'êtes pas intéressé, vous n'irez pas, répondez-moi à 2, par texto 98985, par courriel drainville@commercial985fm.ca. Après la pause, je vais prendre quelques appels.